Bonjour chers auditeurs de RLP, vous avez un nouveau rendez-vous avec l'histoire du Périgord et des Périgourdins présenté par les membres de la Société historique et archéologique du Périgord. Voilà, et aujourd'hui, en prélude aux fêtes de fin d'année qui vont bientôt arriver, nous allons vous présenter une émission destinée à vous mettre en appétit. Pour ce faire, j'ai invité Tristan Hordet, à qui je ne demanderai pas de se présenter aujourd'hui, puisqu'il l'a déjà fait lors d'une précédente émission, et j'encourage tous les auditeurs à aller réécouter cette précédente émission qui concernait la gastronomie régionale. Mais aujourd'hui, Tristan va nous parler des repas de fête. Donc, tout d'abord, repas de fête. Est-ce que c'était, par le passé, le repas de réveillon ou le repas des fêtes?
Mais, le repas de Noël, du 25 et non pas du 24, c'est un repas très très ancien, dans la mesure où il est lié au solstice d'hiver, donc ça n'est pas une invention occidentale, française. On faisait la fête de façon qu'on ne connaît pas toujours très bien, mais on faisait la fête bien avant notre ère, bien avant le Noël qui est lié à Jésus-Christ. Et dans à peu près toutes les populations. Alors ça n'était pas, encore une fois, forcément un problème de nourriture, hein, mais il y avait des rites extrêmement variés de l'Inde à l'ancien Mexique, et bien entendu en Europe avec les Celtes ou avec les Germains.
Et Astérix nous dirait qu'il mangeait du sanglier ce jour-là, mais...
Non, je ne suis pas sûr. De toute façon, le repas vraiment de fête, c'est une invention relativement récente, dans la mesure où un repas de fête est coûteux, et dans l'ensemble de la population, avant le XXe siècle en tout cas, on ne dépensait pas énormément d'argent. Un simple exemple, traditionnellement, en Dordogne par exemple, le 24, presque tout le monde allait à la messe de minuit, mais avant on mangeait le boudin. Mais c'était évidemment le boudin dans le monde rural, c'est-à-dire dans la majorité de la population. Et quand on rentrait de la messe de minuit, peut-être que l'on grignotait quelque chose, mais je ne pense pas que ça allait très loin. Il y avait un repas de famille le 25, le midi. Mais je pense que c'était aussi relativement modeste, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Avant, ça n'était pas très très développé, sauf dans des milieux, disons, qui avaient les moyens matériels, financiers de le faire.
Et donc, les menus que l'on retrouve pour ces repas de fête sont des menus quand même d'un certain standing.
Oui, on en a même de très anciens. Moi, j'en ai retrouvé un, il y en a sans doute de plus anciens, de 1867, c'est-à-dire à une époque où on commençait seulement à faire des menus, puisqu'il faudrait faire la distinction entre menu et carte, on en parlera peut-être. Et j'en ai un autre de 1907, ce sont tous les deux des menus de restaurant. C'est très 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 difficile de mettre la main sur des menus qui ont plus d'un siècle de famille. Si certains auditeurs en ont, nous sommes preneurs.
Il faut s'adresser à la Société historique et archéologique du Périgord, 18 rue du Plantier à Périgueux. Merci d'avance. Alors, ce menu
de 1867 et celui de 1907, il y a un point commun qui est intéressant parce que il est proche. Pour ces deux points communs, c'est proche de ce que l'on sert encore aujourd'hui sur les tables, y compris les tables familiales maintenant, puisqu'on sait cuisiner mieux sans doute qu'il y a un siècle et demi. C'est le foie gras et la dinde. En précisant qu'il s'agissait du foie gras d'oie et non pas de canard. le foie gras de canard, qui est la, on va dire la règle, mais enfin qui est très commun en Périgord, n'était pas spécialement utilisé au XIXe siècle et au début du XXe. C'était le foie d'oie. Et la dinde. Alors la dinde, c'était en 1867, dans ce restaurant un peu haut de gamme, la dinde truffée, sauce Périgueux, étant entendu que à cette époque, lorsqu'on parle de dinde truffée, ça veut dire qu'on bourrait la dinde de truffes. Donc c'était pas simplement deux truffes. Hein, ça pouvait être 300, 400 grammes, 500 grammes de truffes dans la dinde. Celle de 1907, ce sont des dindonneaux pochés avec une sauce mousseline. Alors ne me demandez pas de vous dire comment on fait une sauce mousseline, je veux bien, mais enfin, ça veut dire que c'est des plats de restaurant, parce que dans ces restaurants, presque tous les plats, presque tout ce qui est servi avec des sauces. Or, tout le monde sait très bien, enfin tous ceux qui cuisinent, que fabriquer une sauce, ça prend du temps, il faut la maintenir au chaud, et que si on a trois ou quatre sauces à préparer pour un repas, merci, je pense qu'il faut du personnel.
Mais dans les restaurants, le fond de sauce, c'est à peu près toujours le même, quelle que soit la sauce.
Non, pas non. À cette époque. Je pense aussi, et c'est quelque chose qui est très très difficile de comprendre, c'est que ce que l'on mange aujourd'hui et ce que l'on mangeait il y a 150 ans, ce sont deux choses, un peu de choses près différentes. Pour le foie gras, je veux bien qu'il soit encore assez proche, mais au XIXe siècle, on gavait à la main, on ne gavait pas avec des machines, des petites machines, comme aujourd'hui. La dinde, c'était une dinde qui courait dans la cour de ferme et qui pesait jusqu'à 10 kilos, et non pas les dindes que l'on achète aujourd'hui, qui sont quoi, 3 kilos, 4 kilos maximum, hein, alors que les dindes de l'époque en faisaient plutôt 9, 10. Et le reste, c'est la même chose. Je vois en entrée en 1867, on servait une bisque d'écrevisse, donc une crème d'écrevisse. Mais les écrevisses, elles venaient des rivières. En Dordogne, elles venaient de ruisseaux.
Cerne, du Colli.
Oui, bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, aller chercher des écrevisses dans le Colli, je suis curieux de voir ce que vous allez rapporter. Pour le reste, c'est un peu la même chose. On avait du turbo, mais le turbo aujourd'hui, on a du turbo d'élevage. Le turbo à l'époque, non, ça n'était pas du turbo d'élevage. On avait turbo ou turbotin, hein, c'était deux choses qui étaient assez courantes, si j'ose dire, à l'époque. Il y avait aussi du salmi de perdreau. Les perdreaux sauvages aujourd'hui sont assez rare. Je ne crois pas que l'on puisse faire un salmi de perdreaux avec des perdreaux que l'on aura trouvés dans la nature.
Oui, on peut dire qu'ils ne courent pas les chemins par les temps qui courent, alors que les perdreaux d'élevage courent facilement les chemins plus que la campagne.
Bien sûr. Et ils sont de moins en moins sauvages. Ça n'est plus le repas de fête, mais moi je me souviens avoir d'avoir vu dans le pré qui est à côté de ma maison, en pleine campagne, des perdreaux, à la saison des perdreaux, parce qu'ils n'avaient pas été abattus, et ils se demandaient ce qu'ils devaient faire. Donc comme ils voyaient une maison, ils avaient l'habitude de voir une maison et des humains, donc ils s'approchaient de la maison.
Oui, là, le perdreau peut venir au moment du réveillon pour manger et non pas venir pour être sur la table.
C'est ça, exactement, exactement.
Bien, on disait que ces menus étaient donc des menus de restaurant. Donc à l'époque, les gens, semble-t-il, pour le repas de Noël, allaient sans doute plus au restaurant qu'ils ne le font maintenant.
Oui, c'est toujours la même réponse. Il s'agit de milieux sociaux quand même un peu particuliers, parce que un menu de restaurant classique, normal, pas du tout un menu de fête, dans les années 1890, ça correspondait au salaire de trois jours de travail d'un ouvrier qui gagnait correctement sa vie. Alors, un repas de fête, ça avait à peu près le même la même valeur qu'un repas dans un 3 étoiles parisien. Il y a un certain nombre de 3 étoiles parisiens où, par tête, on dépense 300 euros sans le vin. Je pense que c'était la même chose à cette époque pour un repas, un menu tel que j'ai commencé à le détailler.
Oui.
Donc c'était extrêmement restreint et je pense que dans ce qu'on appelle aujourd'hui la petite bourgeoisie ou le monde ouvrier, le monde rural, on mangeait chez soi bien sûr et on mangeait... Bien sûr qu'on faisait la fête, c'est-à-dire qu'on dépensait ce qu'on ne dépensait jamais dans l'année. Hein, c'est une occasion, c'est une occasion de fêter. Mais je ne crois pas que l'on avait des menus avec 6 ou 7 plats.
C'était des moments exceptionnels.
C'était
que ce soit au restaurant pour les plus aisés ou à la maison pour les plus humbles.
Oui, bien sûr pour tout le monde. Mais je ne crois pas. Sans doute que l'on mangeait du foie gras parce que, en Dordogne en tout cas, parce que, ou en Alsace, puisque le foie gras vient d'Alsace et non pas du Périgord au départ. Oui, bien sûr qu'on mangeait du foie gras, mais c'est celui que l'on fabriquait à la maison, on ne l'achetait pas. Et je ne suis pas sûr que l'on mangeait du foie gras et de la dinde. Je ne suis pas sûr du tout. Alors qu'aujourd'hui, oui, il y a foie gras, dinde, et même d'autres choses. Il peut y avoir des huîtres en plus. Je connais ça. Hein.
Oui. Oui. Alors, on pourra revenir à la composition de ces menus un peu plus tard, mais j'aimerais que l'on fasse une comparaison. Vous aviez cité 2 menus, et puis je vous avais entendu citer aussi ce que certains prennent pour un menu, mais avec une liste énorme de plats, qui était le menu ou la carte du Savoy à Londres.
Ah oui, alors
ça pourrait être intéressant de dire.
Voilà, j'ai retrouvé la carte du Savoy, c'est-à-dire un grand restaurant, grand hôtel et grand restaurant de luxe à Londres, de 1899. Le cuisinier à l'époque, qui était d'ailleurs, qui avait une part dans l'affaire du Savoy, était Auguste Escoffier, c'est-à-dire un de nos grands, grands cuisiniers français, qui a rénové la cuisine française à la fin du XIXe siècle et au début de la première année du XXe siècle. Et son menu comptait un peu plus de 20 plats. Bien entendu, on ne peut pas dire « Oh là là, ils avaient un sacré appétit à cette époque ». Pas du tout. On appelait menu ce que nous appelons plutôt aujourd'hui une carte. C'est-à-dire qu'on avait une quantité, je vais les énumérer, une quantité assez impressionnante de plats, mais le convive choisissait. Il n'est pas question qu'il mange tout ce que je vais vous énumérer. Alors je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout, mais en entrée, on avait du caviar frais, bouquet de crevettes, ensuite un potage à la tortue, un borch à la russe, donc 2 potages, ensuite des suprêmes de sole à l'aurore, à la sauce aurore, des filets de rouget aux laitances, donc avec les laitances des rougets, des poulardes à la royale, des timbales de truffes au champagne, sel de chevreuil grand veneur, mousseline d'écrevisse, vous avez encore faim, délices de bécasse, là on s'arrête un petit peu, sorbet. Ensuite, on reprend ortolan en cocotte, des cailles à l'orange, une salade, des asperges nouvelles. Des asperges nouvelles pour Noël.
Oui.
Je pense qu'ils avaient des serres chauffées assez extraordinaires. Ensuite, des foie gras pochés à la veuve Cliquot. Et après, ce sont des mignardises. Hein. Un soufflé chantilly, un ananas glacé, des mandarines à l'oriental, des biscuits aux Evelines, des mignardises, des galettes écossaises, des fruits et des vins. Ça, les vins, je vais en parler un peu après. Alors, dans toute cette série, moi, je relève, par exemple, ananas glacé. Alors, on dit ananas, oui, aujourd'hui, quand on va dans n'importe quel magasin bien fourni, on trouve 3 ou 4 variétés d'ananas. À l'époque, l'ananas était une rareté. Tout le 19e siècle, c'était une rareté. D'une part... D'autre part, la mandarine, c'était quasiment inconnu. C'était un fruit extrêmement rare également. Donc ça vous donne une idée de la qualité gastronomique du menu du Savoy.
Alors, après cette énumération, on va digérer un peu, on va faire une petite pause, et ensuite on rentrera à nouveau dans les détails.
Every star above knows the one I love, sweet Sue, just you and the moon. Knows the reason why, sweet Sue, it's you, no one else it seems ever shares my dream. And without you, dear, I don't know what I'd do. In this heart of mine, you live all the time, sweet Sue. Just you, sweet Sue. Just you.
Voilà, après cette pause qui nous a remis en forme, nous allons revenir à nos menus. Alors, non pas à la carte du Savoy qui était plantureuse à souhait, mais aux deux autres menus. Est-ce que vous pouvez nous les lire ?
Oui, alors je vais commencer par le plus ancien, celui de 1867. On commence par une bisque d'écrevisse, ensuite un turbo, sauce hollandaise, un salmi de perdreau, et on s'arrête pour un sorbet. Ensuite, dinde truffée, sauce Périgueux, pâté de foie gras. Vous voyez que le pâté de foie gras n'est pas du tout en début de repas, mais vient quasiment, je ne vais pas dire à la fin, mais presque, puisque ensuite, on a des cardons à la moelle, plus les desserts, une gelée d'ananas, j'ai parlé de l'ananas tout à l'heure, et puis des bombes glacées. Ça, c'est pour le menu de 1867. On boit en même temps deux Saint-Julien, dont un château Léoville, c'est-à-dire des grands crus, et on finit avec le champagne. Le champagne étant la règle pour tous les menus de cette époque. Pour le menu de 1907, on commence par un cocktail, ensuite on a une crème de volaille sauce Pompadour, un turbotin poché sauce mousseline, un cuisseau de chevreuil sauce poivrade, avec des haricots verts et des pommes fondantes. Ensuite, comme pour le menu précédent, le foie gras, qui précède des dindonneaux farcis au marron. Ensuite, salade, chou-fleur au gratin, c'est servi à part. Et les desserts, plum pudding au rhum, et des glaces italiennes, je ne sais pas pourquoi italiennes, je ne sais pas si à l'époque les glaces italiennes avaient déjà cette réputation, sans doute, et des friandises. Et on boit du Bordeaux, mais je n'ai pas de précision sur le Bordeaux. Je pense que ce devait être un bon Bordeaux.
Voilà, je pense que déjà quand on a avalé tout ça, on a bien mangé. Et...
Oui, on a pris son temps aussi.
Et on a pris son temps,
on
oui.
On a pris son temps pour
on
manger.
On l'espère, on l'espère.
On l'espère, oui.
Voilà. Et je remarque que vous parliez tout à l'heure du boudin. On ne mange plus de boudin noir, ou à ma connaissance, au moment des fêtes de fin d'année, mais on mange du boudin blanc.
Oui, c'est vrai.
Depuis une cinquantaine d'années, au moins.
C'est vrai, mais on le nomme boudin parce qu'il a la même forme, parce que pour la fabrication, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais c'est vrai que c'est une façon de commencer un repas, de manger du boudin blanc. Enfin, je commençais ou pas commencer.
On parlait des huîtres tout à l'heure. Oui, souvent a... même avec les huîtres.
Avec les huîtres, c'est ça, avec les huîtres. Ou parfois avec de petites saucisses pour les huîtres, comme ça se fait dans le Bordelais, je crois.
Ou des crépinettes.
Ou des crépinettes, oui, c'est cela. Oui. C'est cela. Mais ce que je note, oui, et je l'ai vu dans d'autres menus, bien sûr, c'est que le foie gras n'était pas servi en premier lieu. Ça m'a un peu surpris, parce que je pense que après avoir fait un début de repas avec un turbotin, avec un cuisseau de chevreuil ou avec un salmi de perdreau, je ne sais pas. Bon. Peut-être qu'en prenant son temps, en prenant un sorbet, peut-être qu'on a envie ou qu'on peut manger du foie gras. Mais aujourd'hui, c'est plutôt en début de repas, il me semble.
Oui, tout à fait. Alors par contre, des formations professionnelles, je suis en train de me dire que sur un plan physiologique, c'est peut-être pas plus mal. Parce qu'on a déjà bien sollicité son appareil digestif.
Oui.
Et le foie gras, de même que le cardon à la moelle, si c'est à la moelle d'os à moelle, tout ça est bien gras et ça vient bien titiller la vésicule biliaire qui fait un afflux de bile qui va aider à digérer tout ce qu'il y avait avant et ce qui vient après.
Ah, peut-être. Peut-être.
C'est une hypothèse physiologique.
C'est possible, mais je vous fais remarquer que dans l'un des deux, on mange également une dinde truffée avant le foie gras, et que dans le second, la dinde truffée vient après, enfin le dindon, oui. Disons. Alors tous les deux sont farcis, hein. L'un avec la truffe, l'autre avec les marrons. Ça n'est pas tout à fait, j'ai envie de dire, c'est pas tout à fait le même milieu social, parce qu'une dinde truffée telle qu'on la faisait à l'époque, je pense que cela devait coûter très cher. Hein. Alors que les marrons,
oui,
c'est abordable.
C'est le menu de la ferme, peut-être.
Oui, là, bon. C'est le menu de la ferme, oui. presque. Enfin, en l'occurrence, c'est dans un restaurant, mais ça pourrait être le menu de la ferme. Bien sûr.
Est-ce qu'il y a aussi une différence de cuisson entre les deux volailles de ces deux menus? La dinde truffée est supposée être rôtie et on nous précise pour les dindonneaux qu'ils sont pochés.
Oui, alors je suppose que c'est probablement pour que l'animal soit plus moelleux. C'est une recette qui se fait de moins en moins, malheureusement. D'abord parce qu'il faut avoir le récipient qui convient pour une dinde. Mais il est certain que si l'on cuit un dindonneau ou une dinde dans un jus de légumes, par exemple, ou qu'on la pré-cuit jusqu'aux trois quarts, qu'ensuite on l'essuie, qu'on la laisse sécher et qu'on la rôtit ensuite, on aura, et en la farcissant bien sûr, on aura un animal qui sera très moelleux. On peut faire exactement la même chose, même si ça n'est pas pour un repas de fête, avec un lapin.
Oui, moi j'ai vu ça aussi avec un poulet. J'avais 12 ou 13 ans à l'époque, c'était au Royaume-Uni, et j'avais été très étonné de voir le poulet passer dans un bouillon avant d'aller au four.
Oui.
Et ma foi, j'avais trouvé ça très bon. Effectivement, très moelleux, moins sec.
Bien sûr, ça permet justement de casser ce côté serré d'une volaille de ferme ou d'un lapin de ferme, bien sûr. Je pense que le fumet du... Enfin, le bouillon lui permet d'acquérir un moelleux qu'il n'a pas autrement, hein, qu'il reste sec.
Alors, maintenant, on a beaucoup excité nos auditeurs et beaucoup vont se dire « mais je vais essayer de faire tout ça pour mon repas de fête ». Il y a certainement des ingrédients qui seront plus faciles à trouver qu'il y a 150 ans, Mais la technique, la cuisson, la préparation, vont-ils s'en sortir ?
Eh bien, si je prends le menu de 1907, je pense qu'il vaut mieux trouver un restaurant où l'on a toutes ces sauces. Parce que si vous faites des sauces, par exemple une sauce mousseline, bon, je pense que... il faut un bon quart d'heure de préparation. Ensuite, il faut la faire cuire. Il faut la préparer et puis la garder au chaud. Bon, supposons qu'on puisse la garder au chaud. Mais dans ce menu de 1907, il y a une sauce pompadour, une sauce mousseline, une sauce poivrade. Je ne vois pas très bien comment on peut faire ces trois sauces dans une famille, à moins qu'il y ait trois cuisiniers dans la maison, et puis qu'il y ait de quoi la chauffer.
Ou la méthode ultra rapide, trois sachets.
Ah non, mais surtout c'est pas. Rendez-vous compte, il y a, dans le menu de 1867, il y a une dinde truffée sauce Périgueux. Je sais bien qu'il existe des petits pots avec une sauce Périgueux, mais c'est tellement meilleur quand on l'a fait soi-même. C'est tellement meilleur. Il faut prendre le temps pour ça, non. Je pense que, justement, la notion de fête suppose une préparation et il ne faut pas... Il vaut mieux se lever un peu plus tôt pour tout préparer plutôt que d'acheter des petits pots, quand même.
Et la préparation en elle-même est une fête.
Mais
c'est le début de la fête.
Bien sûr, c'est un plaisir. D'ailleurs, dans ce menu de 1867, il n'y a que deux sauces. Sauce hollandaise et sauce Périgueux. Alors... Je pense qu'on doit pouvoir faire les deux. La sauce hollandaise n'est pas quelque chose d'horriblement compliqué. Et en s'y prenant correctement, ça doit aller. Pour un turbo, en plus, il faut une sauce hollandaise.
Oui.
Enfin, c'est bien, disons.
Par ailleurs, la cuisson du turbo en elle-même n'est pas très longue non plus. C'est poché, là aussi.
Bien sûr. Alors, la bisque d'écrevisse, ça demande quand même du temps, parce que... Il faut les dépiauter, il faut mouliner tout ça. Enfin bon, ça prend du temps. Mais c'est encore possible. Mais quand je vois qu'après le bisque d'écrevisse et le turbo, qu'il y a un saint-louis de perdreau, un saint-louis demande aussi un temps assez long.
Oui, mais plus ça mijote, meilleur c'est, donc on peut commencer à le préparer en début de semaine.
Alors à ce moment-là, on l'a fait le soir, mais on le fait la veille.
Oui.
On le prépare la veille. Oui, pourquoi pas. Le pâté de foie gras, je pense qu'on a fait sa terrine quelques jours avant, parce qu'un foie gras qui vient d'être fait n'est pas extraordinaire. Il faut qu'il ait quand même 3-4 jours au moins dans sa terrine, je pense.
Et quant aux écrevisses, si tant est qu'on connaisse un coin où il y en a, on a le droit de les attraper que le jour du 15 août. Donc il faut passer par la case congélateur.
Il faut passer par la case congélateur. Je me souviens, vous me citiez tout à l'heure le colis. Je me souviens, je ne vous dirai pas l'année, parce que sinon on va se dire, mais c'est un vieux monsieur. Je me souviens d'avoir mangé des écrevisses du colis. Oui. J'étais invité et la personne qui nous invitait était allée chercher des écrevisses du colis. C'était l'été d'ailleurs.
Oui, moi j'ai souvenir de deux pêches aux écrevisses. L'une, j'avais 12 ans et c'était de vraies écrevisses et on n'en avait pas pris beaucoup. Et l'autre, j'avais 10 ans de plus, et c'était des écrevisses américaines. Et là, on avait décidé de faire une bonne action, à savoir de nettoyer la rivière, et on en avait pris un plein seau.
Ah oui. C'est vrai qu'elles étaient envahissantes.
Envahissantes et très... elles détruisaient tout sur leur passage.
C'est
en particulier, non seulement les autres écrevisses, mais aussi les poissons.
Mais il n'y en a plus du tout maintenant, de toute façon.
Des crevisses américaines ?
Oui. Pas dans le colis, en tout cas.
Ah non, pas dans la région, ici.
Non,
il y a encore des endroits où il y en a.
Pas dans la région. Oui. Moi, je reviens à ces menus. Si on veut faire une dinde truffée sauce Périgueux, on peut aussi, plus modestement, mettre, disons, 50 grammes de truffes. Ça ne revient pas... Pour une fête, ça ne revient pas à un prix exorbitant. C'est possible. Mais moi, pour mon compte, j'ai de la tendresse pour la dinde ou le dindonneau au marron. Donc ça ne pose pas trop de problèmes pour le faire. Et ça n'est pas très coûteux.
Et en dessert, donc, on remarque dans ces menus qu'il n'y a pas de bûche. Ça remonte à quand, la bûche de Noël ?
Alors, la bûche, je pense que ça remonte, je ne peux pas donner une date précise, ça remonte de toute façon au XXe siècle, puisque la tradition, c'était, qui est très 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 ancienne, le soir de Noël, de mettre une bûche dans le feu qui devait durer en gros jusqu'au 3 ou 4 janvier. Donc elle était sous la cendre et puis elle ne brûlait pas toujours, hein, on la rallumait pour qu'elle soit encore là sous le feu vers le 3 ou 4 janvier. Mais la bûche de Noël, non, c'est quelque chose de récent, y compris encore plus la bûche glacée.
Eh bien, Tristan, merci beaucoup. La bûche est consommée, si l'on peut dire. Et on va souhaiter à tous nos auditeurs de passer de très bonnes fêtes. Et s'ils ont réussi à reproduire l'un de ces menus, ils pourront nous inviter.